Les rendez-vous de l'onco-urologie.
Bonjour à tous et bienvenue dans ces podcasts des rendez-vous de l'onco-urologie. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec le docteur Guillaume Ploussard qui est urologue et on va aborder la thématique des PSA détectables après prostatectomie. Je suis Paul Sargos, je suis radiothérapeute à l'Institut Bergonié à Bordeaux et donc comme je vous l'ai dit, Guillaume Ploussard, responsable du CCA FU Prostate entre autres et urologue à Toulouse. Bonjour Guillaume.
Bonjour Paul.
Alors je rentre dans le vif du sujet. La première question donc... Qu'est-ce que tu donnerais comme définition sur ces patients qui ont... C'est quoi un patient qui a un PSA détectable après prostatectomie? C'est quel timing? Et c'est quel type de patient que l'on retrouve avec ce PSA dosable en post-op?
Alors pour la définition, c'est une définition assez simple. Hein. C'est un PSA qui reste au-dessus du seuil de 0,1 nanogramme par millilitre. Donc un seuil qui est bas. Et pour le timing après chirurgie, ça dépend du PSA initial. Hein. Il y a la demi-vie du PSA, la demi-vie d'élimination qu'il faut anticiper. Donc parfois c'est 4 semaines, parfois c'est 6 semaines, parfois c'est 8 semaines après chirurgie, en fonction du PSA initial. Ce qui est sûr, c'est que c'est une situation qui n'est pas si rare en pratique clinique, et dans toutes les grosses études, c'est entre 5 à 10% tout de même des patients après chirurgie. Ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment corrélé à l'agressivité tumorale, hein, c'est essentiellement des patients avec des tumeurs localement avancées, en tout cas au risque, patients qui souvent ont des marges microscopiques, et on sait que ce facteur PSA détectable est un facteur vraiment péjoratif, qui est corrélé au risque de récidive après chirurgie, et probablement même au risque de métastase. Ensuite, il faut pas forcément accuser l'urologue, hein, c'est rarement une vraie faute chirurgicale, c'est rarement un patient chez qui on a laissé un résidu macroscopique pendant l'opération, c'est plus soit un résidu microscopique ou alors éventuellement une maladie qui est déjà extra-prostatique et qui n'a pas été authentifiée, bien identifiée sur le bilan initial d'extension. Chose intéressante aussi, c'est qu'on a certains patients qui peuvent avoir un PSA détectable, mais avec des marges saines. Ça a été évoqué, hein, éventuellement sur un col vésical qui a été hyper préservé. Là, il faut faire attention avant de dire que c'est des marges saines. Il faut vraiment que ce soit des petits PSA, et surtout qu'il y ait une vélocité du PSA nulle. Donc c'est un PSA qui reste bas et stable dans le temps, et peut-être ces patients n'ont pas besoin de traitement adjuvant, mais ça reste une minorité probablement des PSA détectables. Alors Paul, moi j'ai une question, parce que c'est vrai que nous on a fait notre travail de chirurgien, peut-être pas suffisamment bien si le PSA est détectable. Quelle est ton attitude, toi, chez un patient qui a un PSA détectable avec une maladie assez agressive, par exemple un PT3, qui n'a pas de ganglion positif, qui a été bien curé, un ISUP4, et pour lequel on n'a pas d'imagerie moléculaire, on l'envoie en RCP, on l'envoie en radiothérapeute. Quelle est ton attitude en pratique?
Alors déjà, je suis assez d'accord avec toi. Là, je pense que l'un des premiers messages, c'est recontrôler le PSA. On a des cas, ce n'est pas les plus fréquents, mais des gens qui ont un PSA qui va persister, mais jamais vraiment trop s'élever. Et effectivement, c'est peut-être cette petite zone de tissu sain qui a persisté, qui sécrète. Donc la première chose, c'est recontrôler le PSA un mois plus tard, quelque chose comme ça, tenir compte de la vélocité, bien sûr. Ça reste quand même de la radiothérapie de rattrapage, le traitement standard. C'est une radiothérapie de rattrapage qu'on va dire immédiate, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'adjuvant, hein, le PSA est dosable, c'est du rattrapage parce que donc on doit curer ce PSA qui persiste. L'attitude, en gros, la réflexion, on parlera de l'imagerie certainement plus tard, mais sans imagerie moléculaire, le type de patient que tu me présentes, je pense qu'il faut s'orienter vers une radio-hormonothérapie. En termes de radiothérapie, on sait qu'il y a beaucoup de rechutes ou de persistance dans la loge de prostatectomie, donc je pense qu'il faut traiter la loge. Il faut traiter les ganglions pelviens. Voilà, je pense que c'est chez ces patients, on a vraiment un bénéfice à traiter les ganglions pelviens en radiothérapie. Donc c'est un schéma classique. Et après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme données sur la place de l'hormonothérapie? On en a quelques-unes rétrospectives. Si on regarde les prospectives, on a cet essai nord-américain, le RTOG 9601, hein, donc radiothérapie, plus ou moins 2 ans de bicalutamide 150. Il y avait au moins un peu moins de 30% des patients qui avaient un PSA détectable. Et il semble que le fait de rajouter de l'hormonothérapie, si c'était le bicalutamide, ça semblait apporter un bénéfice sur des endpoints un peu significatifs, notamment la survie sans métastase. Et l'essai français, dont le JETUC AFU 22, qui n'est toujours pas publié, mais qui a été présenté dans deux congrès internationaux récemment à l'EAU, on a les données d'efficacité et on voit que rajouter, ici c'était 6 mois de dégâts RELIX, ça a apporté aussi un bénéfice en survie sans métastase dans une étude de phase 2 randomisée. Voilà. Donc le premier niveau de preuve, je pense, même s'il n'est pas extrêmement fort, je dirais c'est radiothérapie loge, pelvis, et probablement rajouter de l'hormonothérapie, et peut-être que 6 mois sont suffisants que que 2 ans, c'est un peu cher payé, même si on n'a pas la réponse.
Ok, très clair. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une étude, GTUC 22, qui répond à peut-être à une question ou qui va répondre à la question de l'hormonothérapie dans cette situation associée à la radiothérapie?
Alors, le GTUC 22, c'est ce que je vous répète, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Donc, c'est un essai de phase 2, randomisé. La définition du PSA détectable était un petit peu différente de celle qu'on retrouve dans la littérature ou dans les travaux de revue systématiques. Donc, c'était un PSA entre 0,2 et 2. On allait un peu plus loin après la chirurgie. Je crois qu'on avait jusqu'à 3 mois à peu près pour considérer le PSA détectable. Et donc, on randomisait cette radiothérapie loge pelvis, plus ou moins 6 mois de dégâts RELIX. Les points clés à retenir, il y a un petit bénéfice en survie sans métastase, significatif à rajouter 6 mois de dégâts RELIX. Le dégât RELIX était intéressant parce que la testostéronémie remontait un peu plus rapidement peut-être qu'avec les agonistes classiques. La tolérance était bonne et c'est le niveau de preuve le plus élevé, cette phase 2. Donc, feu sur la radiohormonothérapie et 6 mois d'agoniste ou d'antagoniste, je dirais, dans cette situation.
Très clair, merci Paul. Est-ce que finalement, dans cette situation, tu penses que l'imagerie moléculaire est intéressante et peut changer la donne, c'est-à-dire peut optimiser ton traitement? Et si imagerie moléculaire, est-ce qu'on se contente de la colline? Est-ce qu'on exige un TAP PSMA?
Alors, je pense que oui. Je pense que c'est vraiment l'endroit où il y a une place particulière pour l'imagerie moléculaire. Et voilà, donc on est dans le rattrapage. Hein, donc, c'est un peu là qu'elle a aussi son indication la plus importante. Oui, parce que souvent, c'est des histoires naturelles un peu atypiques. Alors, la colline n'est pas tellement sensible, spécifique, même si elle apporte quelques infos. Je pense que la première chose à éliminer, c'était une mauvaise stadification initiale. Peut-être qu'en préopératoire, on a fait un scanner, une scintigraphie, l'échantillonnage biopsique, peut-être qu'il ne reflète pas vraiment le glisson pathologique à la fin, ou l'IRM, voilà, peut-être qu'on a des upstage, des upgrades. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut chercher le drainage atypique. Donc, je vous dirais quelque chose qui sort des templates de contourage des radiothérapeutes, un ganglion inguinal, un ganglion mésorectal. Voilà, si on reste dans le pelvis. Et il faut aussi éliminer la maladie métastatique. Par moments, ces patients, on retrouve des drainages lombo-aortiques, donc des patients qui, en imagerie moléculaire, sont considérés comme métastatiques. Et donc, voilà, on peut se poser la question, peut-être pas d'abandonner la radiohormonothérapie post-opératoire, mais au moins d'étendre nos champs de radiothérapie ou de modifier nos champs de radiothérapie, éventuellement les doses, même si la preuve qu'on a de faire ça est un petit peu basse. Mais oui, dans cette situation, je dirais que c'est vraiment intéressant de le proposer, même si encore une fois, le niveau de preuve est faible. On a fait une petite étude avec le CCAFU, avec Mathieu Gauthier, qui est médecin nucléaire. Et effectivement, on voit que faire cette imagerie moléculaire, ça change notre prise en charge dans un tiers, deux tiers des cas selon les études. Et on va reconduire une étude rétrospective un peu plus documentée, multicentrique, pour essayer de comprendre un peu cette histoire naturelle atypique de ces patients avec des PSA détectables.
Eh bien, merci Paul. Je pense qu'on peut conclure ce podcast. Hein. Le PSA détectable, encore une fois, c'est une situation qui n'est pas fréquente, mais qui n'est pas rare, et il faut pouvoir bien la prendre en charge, se poser la question du bilan initial, est-ce qu'on a bien fait le bon staging, et en effet, l'imagerie moléculaire est importante, on peut passer à côté de métastases, et c'est vrai qu'il n'y a plus forcément d'intérêt à faire une radiothérapie de loge si on détecte une métastase sur la côte ou sur l'os dans ces situations. Donc l'imagerie moléculaire importante, et en cas d'imagerie moléculaire négative à distance, on se dirige vraiment vers une radiothérapie associée à une hormonothérapie courte. Voilà, je pense, pour les messages cliniques.
Bah, merci beaucoup, Guillaume, pour la synthèse. Ravi d'avoir partagé ça avec toi, comme d'habitude. Et puis, on vous dit à très bientôt, donc sur ces rendez-vous onco-uro.
Les rendez-vous de l'onco-urologie.